Voici le chemin de la connaissance. En première partie, Jérôme Peignot présente la civilisation de l'écriture. Aujourd'hui, sixième émission, Histoire de la Caroline avec Charlie Gounet.
La partition qui sert de générique à cette série d'émissions sur les civilisations de l'écriture est extraite des Trois leçons des ténèbres de François Couperin. Voici à ce sujet quelques précisions. Chacune des leçons est composée de 22 groupes de vers destinés à illustrer les lamentations du prophète Jérémie. Dans la version primitive, la lettre initiale de chaque groupe suivait l'ordre de l'alphabet hébreu, de sorte que celui-ci se trouvait reconstitué lorsque les strophes étaient reliées en acrostiche, particularité que n'ont pu conserver les traductions grecques et latines. Pourtant, dans un louable désir de maintenir la tradition, la Bible latine a fait précéder chaque verset de la lettre hébraïque qui, dans la version première, lui servait d'incipit. Nous aurons donc ici une alternance continuelle entre les lettres de l'alphabet hébreu qui se développe tout au long des trois leçons. Première leçon, Alep, Beth, Gimel, Daleth, He. Deuxième leçon, Van, Sein, Het. Troisième leçon, Jod, Kaf, Lamed, Men, Nun. Et les versets latins. Pour être complet, ajoutons que si la première leçon ouvre par l'intitulé du triptyque, incipit, lamento, Jérémie prophété, les trois leçons trouvent une conclusion identique dans le répond, Jérusalem, Jérusalem, convertere ad dominum deum tuum. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre studio, et pour poursuivre la conversation que nous avions avec M. Malon lors de notre dernière émission, M. Igounet, qui est professeur à la faculté de Bordeaux et chargé de cours à l'école pratique des hautes études, et qui est l'auteur du fameux petit volume, mais lourd de signification et d'enseignement pour nous tous, qui s'appelle L'écriture, et qui a paru... Voilà quelques années déjà, n'est-ce pas?
1955, si je ne me trompe. Ou 1956, je l'ai oublié.
Aux presses universitaires. Et vous avez rajouté, il y a une nouvelle édition, non?
Je crois qu'on est à la cinquième édition. Et chaque fois augmentée, sinon modifiée.
Notre entretien, si vous voulez bien, sera consacré à ce monument de l'histoire de l'écriture qu'on appelle la Caroline. Mais derrière ce mot de Caroline... se cache tout un pan de l'histoire de l'écriture. Et ma première question sera, pour faire le lien, si vous voulez bien, avec ce que nous disions avec M. Malon, que sont ces pré-carolines et leur lien avec les écritures latines, l'affaire de l'épitome?
Oui, dans les siècles que l'on appelle les siècles barbares, il y a eu une certaine désaffection de l'écriture. D'abord, l'administration romaine s'est diluée. L'économie a eu une période d'affaissement aussi. Et par conséquent, dans ces deux domaines, administratif et économique, il y a eu un déclin de l'écrit pendant cette période-là. Mais d'autre part, pendant la même période, et surtout à partir du 5e et surtout du 6e siècle, il s'est développé dans tout l'Occident chrétien un monachisme très dru, très important. Et si l'usage de l'écriture a baissé dans le domaine administratif, politique et économique, l'écriture s'est localisée, si l'on peut dire, dans les monastères et dans l'Église.
On a vu d'ailleurs un foisonnement d'écriture.
Une localisation, je dirais, de l'écriture dans l'Italie méridionale, ce qui est devenu l'écriture de Bénévent, tant dans l'Espagne, que l'on a appelé faussement d'ailleurs l'écriture visigothique. Je crois qu'il ne faut pas appeler ces écritures du nom d'un peuple, car ces écritures n'étaient pas nationales, n'est-ce pas ? C'est une erreur de dire écriture nationale, sur lequel on est revenu il y a un certain temps. M. Malon, précisément, s'est élevé contre cette dénomination, car ni l'écriture visigothique, ni l'écriture de l'Italie méridionale, ni les écritures, des îles anglo-saxonnes, ne doivent quelque chose aux anglo-saxons, aux visigoths ou aux lombards. Il se fait que, dans ces différents pays, des écritures se sont développées localement, sur la base, de l'écriture commune romaine.
Oui, mais alors, d'ailleurs, il semble que M. Malon, toujours lui, dit qu'il est aberrant de penser qu'on pourrait classer tout ce foisonnement de lettres.
Oui, il est très difficile de classer, car si on se place aussi dans le domaine de la Francia mérovingienne, il y a eu plusieurs monastères et qui, chacun, ont développé une écriture. Comment les classer ? Ça paraît bien difficile, vous savez que l'on parle de l'écriture de Luxeuil, on parle de l'écriture de Corbie, on parle de l'écriture AB, de l'écriture BA, etc. Nous n'entrons pas dans ce détail, n'est-ce pas, qui est un détail qui relève de l'érudition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que précisément, en ce 6e, en ce 7e siècle, l'écriture, d'une part, s'est concentrée dans des ateliers monastiques, ce que l'on appelle des scriptoria, et que, d'autre part, cette écriture était devenue, je dirais, dans beaucoup de cas, une écriture sauvage, et qu'il était, je dirais, nécessaire de réagir à un moment donné. Or, cette réaction est venue, précisément, à l'avènement de la maison pipinide et surtout carolingienne. C'est sous Charlemagne que la réaction s'est faite et que c'est alors que l'on peut parler de l'éclosion, de la création d'une nouvelle écriture qui précisément va être appelée et sera appelée l'écriture caroline.
Alors cette écriture caroline, Charlemagne l'a réalisée, l'a fait faire, nous allons voir comment l'affaire d'Alcuin. Mais est-ce qu'il y a un arrière-plan politique dans cette uniformisation de l'écriture, dans son esprit ?
Vous commettriez peut-être une erreur disant que Charlemagne l'a voulu, l'a conçu. Ce n'est pas Charlemagne.
Non, ce n'est pas Charlemagne. C'est Alcuin, les ateliers.
D'autre part, la tradition classique veut que ce soit Alcuin.
C'est ce que dit Roger Drouet dans son livre.
Mais qu'Alcuin n'est qu'un maillon de la chaîne. L'éclosion ou la création de l'écriture caroline est un acte en deux tableaux, si vous voulez. Il faut la considérer, d'une part, du point de vue graphique, et d'autre part, cette éclosion ou cette création de la caroline, il faut la considérer dans son contexte politique, et je dirais européen, dans le sens carolingien. Du point de vue graphique, il faut tenir compte de l'application et des travaux et des recherches. Au fond, les moines des abbayes dont nous parlions tout à l'heure, c'était un peu comme des créateurs de caractère, n'est-ce pas ? Et un créateur de caractère, M. Druet nous le dirait mieux que je peux le dire, travaille très lentement avec une application, une recherche de graphisme. Bien, je pense qu'il faut considérer les moines de ces ateliers de l'atelier de Luxeuil, de l'atelier de Corby, des ateliers de Lang, de l'atelier de Vérone en Italie, des ateliers de Tours. Enfin, il y a toute une série d'ateliers européens, et surtout dans l'Europe occidentale, où chacun s'est mis à la recherche d'un graphisme nouveau pour rénover lentement cette écriture difficile, sauvage
et uniformisée.
Je ne pense pas que précisément ils ont voulu uniformiser. Chacun a travaillé en tirailleur, nous dirions aujourd'hui. Chacun dans son abbaye, chacun dans son coin. Et ce n'est que progressivement, et précisément dans les conditions générales dont nous allons parler dans un instant, que l'uniformisation est venue. Alors, il y a un certain nombre d'étapes dans cette avance, dans cette création de caractère que l'on appelle le carolingien, ou écriture caroline, la minuscule caroline. Il y a d'abord, je pense, l'atelier de Corby, qui a été au 8e siècle un des ateliers les plus importants et dont est sortie une Bible qui présentait déjà aux environs de 780 les caractères de ce qui est devenu l'écriture caroline, la Bible de Mordramnus. D'autre part, il y a eu des ateliers en Italie, à Vérone. Il y a surtout l'activité de l'atelier de Tours. Et c'est pour cela qu'on revient, et on en vient à Alcuin, n'est-ce pas, qui, pendant un grand nombre d'années, a développé le scriptorium, étant abbé de Tours entre 796 et 804.
Je voudrais, avant d'aller plus loin, préciser que si nous nous attardons tant sur la Caroline, c'est qu'au fond, c'est le moule, c'est le point de départ.
Je crois qu'il aurait peut-être fallu le dire
au départ.
Pour nos auditeurs, l'essentiel, c'est que le journal qu'ils lisent tous les matins, l'écriture bas de casse de notre imprimerie d'aujourd'hui, reproduit à peu près intégralement les formes de l'écriture caroline, en passant par l'intermédiaire de l'écriture humanistique et qui a rénové la caroline à la fin du Moyen-Âge, n'est-ce pas ?
Bien. Les choses étant comme ça précisées, revenons-en à Alcuin, si vous voulez bien. Finalement, quel est son rôle dans cette affaire ?
On a voulu lui attribuer un rôle dans la création de la Caroline, car certains auteurs ont pensé que la création de la Caroline avait été faite au palais carolingien. Et est-ce que Alcuin, alors, c'est là qu'Alcuin, réformateur des écoles, aurait introduit la réforme de l'écriture caroline. Mais on ne connaît pas d'écriture sortie du palais carolingien. On n'en connaît pas. Alors c'est assez difficile de pouvoir de parler d'une naissance de la Caroline autour d'Alcuin au palais.
Oui.
D'autres auteurs, d'ailleurs, ont pensé aussi que la création de la Caroline avait été faite comme ça, ex nihilo, dans des ateliers italiens et autour de la chancellerie pontificale. Là aussi, ça ne paraît pas devoir tenir, et cette façon de voir a été depuis longtemps rejetée. Alors, je crois que, comme nous disions tout à l'heure, ce sont des recherches lentes, des recherches de moines, copistes, de scribes, dans ces ateliers dispersés, principalement dans la Francia occidentalis, c'est-à-dire depuis le Rhin jusqu'à la Loire, à Fleury-sur-Loire aussi, à Saint-Benoît. Ce sont ces recherches progressives qui ont amené à créer des types qui se sont mis en forme, je dirais, dans le premier tiers du 9e siècle seulement. Tout cela était très long. Elle n'est pas sortie tout habillée de la recherche, cette écriture. Et la première calligraphie que l'on peut appeler caroline, c'est une Bible offerte par Origon à l'abbé de Glanfeuil vers 830. Qui commence à présenter les caractères que nous pourrons définir dans un instant de ce qui est véritablement la caroline. Et puis, parmi les exemplaires, les manuscrits les plus caractéristiques, c'est en particulier ce chef-d'œuvre qui est le manuscrit numéro 1 de notre bibliothèque nationale, c'est la première Bible de Charles Le Chauve, qui est véritablement le type même, et que l'on voit partout, d'ailleurs tous les écoliers, je dirais presque les écoliers, les étudiants, disons, le trouvent dans leur manuel, avec la miniature représentant Charles Le Chauve en empereur, avec une figure, je dirais, un peu bovine, mais ceci n'importe peu, ce qui importe, c'est l'écriture qui est le type, mais ça nous amène assez loin déjà, au milieu du IXe siècle.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre l'architecture de l'époque, c'est-à-dire la courbe des églises romanes, disons en gros, et l'écriture?
Vous me permettrez de vous dire que vous faites tout de même un anachronisme.
Oui, bon.
Parce que l'architecture romane, à cette époque-là...
Il est encore dans les limbes.
Bien. Il n'est même pas dans les limbes.
Non, mais parce que je sais que...
Il y a tout de même un type d'arc dans certaines églises carolingiennes que l'on pourrait peut-être mettre en parallèle avec notre écriture caroline. Je ne le pense pas. La caroline ne me paraît pas relever d'une esthétique, n'est-ce pas? Alors que l'écriture dite gothique... peut relever d'une certaine esthétique, je ne pense pas que la caroline se rattache à une esthétique.
Je sais bien que c'est un peu un procédé d'explication qui a cours,
oui.
Que M. Malon dénonçait lui aussi la dernière fois.
Oui, je pense que ce n'est pas valable. Mais alors, je vous ai exposé très brièvement jusqu'ici comment graphiquement, par ses recherches à l'intérieur des scriptoria monastiques, et au cours d'un siècle, ça dure de la moitié du 8e siècle à la moitié du 9e, on avait élaboré ce système et cette graphie dite caroline. Mais il faut alors surtout, et c'est là je crois qu'il faut faire intervenir, alors Charlemagne, il faut faire intervenir l'environnement, pourquoi le succès de cette caroline, et pourquoi cette nouvelle graphie à peu près normalisée, comme vous le disiez tout à l'heure, a-t-elle réussi? Car s'il n'y avait pas eu un environnement religieux, un environnement politique, un environnement, je dirais, l'environnement de Charlemagne lui-même et de son entourage, alors peut-être que cette écriture n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu. On attribue très simplement cette réforme à Charlemagne. Non. La réforme dite caroline, ou la création de la caroline, est contemporaine de Charlemagne. Pourquoi? D'abord parce qu'il a fallu écrire beaucoup de livres sur Charlemagne. C'est ça l'important. Parce que plus on écrit, plus il faut avoir une écriture adaptée à l'écrit. Je crois que c'est M. Doré qui disait aussi que l'écriture... va de plus en plus vite. Je crois que c'est une expression que M. Druy a adoptée, et c'est très vrai. Or, la caroline devait pouvoir permettre d'écrire rapidement de nouveaux livres liturgiques, des livres, je dirais, classiques, et par conséquent, c'était un moyen de développement de l'écrit. Or, nous trouvons là, au moment de la réforme des études, voulue par Charlemagne, celle-là, et réalisée par Alcuin. Alors là, oui, nous sommes d'accord. C'est la réforme scolaire. Et la réforme scolaire a entraîné, nécessairement, l'écriture d'un certain nombre et d'un grand nombre de livres nouveaux, de petits fascicules nouveaux, de livres de toutes sortes. Une rénovation des livres antiques, une réécriture des manuscrits antiques, mais aussi toutes sortes de livres de chronologie, par exemple, qui étaient très nécessaires à l'usage des monastères et des églises, le développement ainsi d'une écriture à l'usage scolaire. Il ne faut pas oublier aussi que Charlemagne a voulu une réforme liturgique. Et ça aussi, c'est capital. C'est-à-dire, on est passé de différentes liturgies à la liturgie romaine. L'unification de la liturgie. C'est-à-dire que, en quelques décennies, on a été obligé, pour l'usage des églises, pour l'usage des monastères, de réécrire ou d'écrire des livres liturgiques nouveaux, et en abondance. Alors, pour cette écriture-là, pour cette confection du livre, nécessairement, il a fallu une écriture d'abord plus lisible, pour un public plus large, pour un public nouveau, une écriture plus rapide, une écriture en quelque sorte normalisée. Et c'est ainsi que le succès de la Caroline s'est affirmé dans ce contexte.
Mais il n'y a pas un souci de sa part d'user de cette écriture dans le but d'asseoir son pouvoir politique.
Je ne pense pas que ce soit une idée qui puisse germer dans un esprit politique du IXe siècle, que d'asseoir un pouvoir politique sur une écriture. Je ne le pense pas, enfin.
Alors il y a deux points sur lesquels vous insistez d'ailleurs dans votre livre, c'est le fait que cette écriture, finalement, a modifié certaines lettres dans leur configuration, dans leur aspect. Oui. Et puis, le deuxième point, c'est l'affaire des ligatures. Oui. Alors, est-ce que vous voudriez un peu nous préciser les choses sur ces deux points? D'abord, l'affaire de la forme des lettres.
La forme des lettres. Alors, d'abord, il faut dire, pour tout le monde, que l'écriture dite Caroline est une écriture minuscule. Écriture minuscule, c'est une écriture qui s'inscrit très exactement entre deux lignes parallèles, n'est-ce pas? Dont le corps s'inscrit entre deux lignes parallèles, sauf que les lettres longues, les lettres A AST, celles qui dépassent la ligne, la lettre L, la lettre B, la lettre D, dépassent les deux lignes médianes de l'écriture. Et les lettres A QUE, comme la lettre Q ou la lettre G, par exemple, dépassent les deux lignes au-dessous de la ligne d'écriture normale. Alors l'écriture Caroline est une écriture minuscule. Minuscule ne signifie pas, je le dis pour...
Le mot minuscule est encore sujet.
Ça ne signifie pas que ce soit une écriture de petits modules. Une écriture minuscule peut avoir des dimensions très grandes, n'est-ce pas?
Il faut préciser.
Alors une écriture minuscule, une écriture d'une façon générale aussi de petits modules, c'est-à-dire de dimensions restreintes. Ce ne sont pas de très grandes lettres, comme dans les manuscrits de lettres de forme, par exemple, du XIVe ou du XVe siècle. Ce ne sont pas de très grandes lettres, comme dans l'écriture romaine...
Lapidaire,
non, pas du tout. C'est une écriture, je dirais, de petits modules. Cette écriture aussi a comme caractère intéressant, c'est que les lettres sont, je dirais, séparées les unes des autres.
Ah oui.
Elles ne sont pas liées les unes aux autres. Il y a quelques ligatures.
Mais pas trop vite aux ligatures. Vous dites que les lettres, la lettre Caroline, privilégie l'écho, ce qui paraît contradictoire avec la séparation des lettres. Et vous insistez en disant que c'est de cette contradiction que semble naître l'harmonie de cette lettre.
Oui, mais je pense que quand même, le caractère essentiel, au fond, qui la rapproche de notre imprimerie, c'est que les lettres ne sont pas liées les unes aux autres, sauf dans certains cas.
Oui.
La lettre C et la lettre T sont liées, la lettre S et la lettre T sont liées.
Qu'on retrouvera dans le Garamond.
Et le T, contrairement au T actuel, qui dépasse la ligne supérieure d'écriture, le T médiéval, le T carolingien, ne dépasse pas la barre du T, ne dépasse pas la ligne supérieure de l'écriture.
Oui.
C'est un point, ce sont des points assez minimes peut-être, mais qui caractérisent une écriture.
Mais il ne s'agit que de points minimes d'ailleurs.
Oui.
Vous dites que la Caroline fixe le G, l'L et l'R, c'est bien ça?
L'R, oui. Alors, la forme des lettres maintenant, venons-en à la forme des lettres. Il n'y a pas grand-chose à dire d'ailleurs sur la forme des lettres, parce que tout simplement, on n'a qu'à renvoyer à l'écriture d'imprimerie, c'est ça. Et tout simplement cela.
Les ligatures, alors. Là, vous vous étendez beaucoup sur cette affaire de ligature, quand même.
Oui. L'écriture médiévale, est, comme chacun sait ou ne sait pas, est pleine d'abréviations. Et ce qui en fait la difficulté pour le non-initié. Ces abréviations, encore à l'époque caroline, ne sont pas très nombreuses. précisément, on a évité, pour la beauté de l'écriture et pour sa lisibilité, on a évité au maximum, apparemment, l'abréviation dans les belles écritures carolines au moins du 9e siècle et du début du 10e. Après, tout cela s'est développé. Mais ces abréviations sont nées de différentes origines qui remontent presque toutes à l'Antiquité ou à la basse Antiquité. Et certaines, précisément, ont la forme de ligature. Et la plus caractéristique, c'est la ligature qui représente la conjonction « et ».
C'est ça.
La conjonction latine « et », qui est restée dans notre imprimerie. Cette ligature que l'on emploie extrêmement fréquemment dans l'imprimerie jusqu'au XVIIIe siècle, et que l'on emploie toujours aujourd'hui, mon Dieu, dans des belles éditions.
Oui, il ne faut pas donc confondre abréviation et ligature.
Ligature, non, mais certaines abréviations ont la forme d'une ligature. et l'abréviation est, qui est une conjonction, peut se trouver en combinaison, peut représenter une syllabe à l'intérieur d'un mot, et par conséquent, elle représente à l'intérieur de ce mot une ligature.
Oui, moi je regrette, comme vous, la disparition...
La disparition de la ligature T, n'est-ce pas, de la
progressive de ces...
Progressive, c'est regrettable, dommage. C'est dommage. C'était beau, mais aujourd'hui, elle ne se comprend plus, n'est-ce pas.
C'est quand même dans l'émission de la Pléiade.
Elle se comprend, mais... Je dirais, elle se comprend, bien sûr. Mais je pense que la majorité du public ne la réclame plus. Voilà.
Ah bien, nous allons la réclamer, nous. Encore un point, c'est une chose dont vous ne parlez pas dans votre livre, mais c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps. On a beaucoup parlé des aberrations de l'orthographe française. Est-ce que vous croyez qu'elles ont pour origine, nous parlions d'abréviation, mais alors là je vais vous parler au contraire d'allongement des mots et de redoublement des consonnes. Est-ce que vous croyez que les scribes sont responsables en partie de l'orthographe française? Et simplement, arrivant à la fin d'une ligne, on redouble
Je ne jetterai pas cette responsabilité aux scribes carolingiens.
Non, on l'a dit pourtant.
On l'a dit?
Oui.
Non, ben là, je ne suis pas au courant de cette...
Bon.
Je ne pense pas que les scribes carolingiens, ce serait plutôt les scribes de la Renaissance qui seraient responsables de l'orthographe française. De même que les scribes de la Renaissance sont responsables de la ponctuation, car dans notre écriture caroline dont il est question actuellement, la ponctuation n'est pas une ponctuation grammaticale, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous vivons sur une ponctuation grammaticale, tandis que le monde latin médiéval vivait sur une ponctuation, je dirais, vocale, n'est-ce pas, phonétique. Ce sont des respirations. La seule abréviation que l'on trouve dans les manuscrits du 9e siècle, c'est le point. Le point est une respiration, ici et là, ça ne marque pas des coupures grammaticales. Puis on voit arriver le point en virgule qui est un peu plus tard, et qui représente notre virgule. Le point d'interrogation se trouve par contre dans l'écriture caroline, le point d'interrogation. On le trouve dans les premiers manuscrits du 9e siècle.
Sous la même forme
À peu près sous la même forme que le nôtre. Je dirais un peu différente, mais enfin, il se reconnaît très facilement.
Alors donc, cette caroline, la voilà campée. Elle a donc eu un grand succès, finalement. Elle a tenu combien de temps, cette fameuse Caroline? Vous dites à un moment dans votre livre, qui est ma Bible, que la fameuse Caroline semble avoir repéré l'unité, fixé l'unité des écritures latines avant l'invention de l'imprimerie.
Mais oui, au départ du monde carolingien, la Caroline a conquis l'Europe occidentale. Elle a conquis l'Angleterre, elle a conquis, je dirais un peu tardivement, la péninsule ibérique, elle a conquis l'Italie et jusqu'à Rome assez tardivement.
Les Irlandais, je crois, qui résistent.
Les Irlandais ont résisté, les Italiens du Sud ont résisté aussi. Elle a conquis naturellement toute l'Europe centrale, puisque c'est l'Europe germanique dérivée du monde carolingien. Et pratiquement au XIIe siècle, il existait une unité scripturaire européenne sous la Caroline. On ne l'appelle plus au XIIe siècle l'écriture caroline, on peut l'appeler l'écriture romane, n'est-ce pas ? C'est vraiment l'expression qu'il faut peut-être adopter. Vous parliez de Charlemagne au départ. Ce n'est pas Charlemagne qui a créé l'écriture caroline. Ce n'est peut-être pas Charlemagne qui a voulu l'écriture caroline, mais c'est sous Charlemagne que l'écriture caroline s'est constituée, et c'est grâce à l'Europe carolingienne que l'écriture caroline a conquis toute l'Europe médiévale.
C'était La civilisation de l'écriture par Jérôme Peignot avec la participation de Charlie Gounet. Assistant Albert Morin. Prochain.